Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission qui est devenue pratiquement une messe que vous suivez de 11h à 12h30. Le Togo, notre pays, confirme sa position de hub aérien stratégique en plein essor. Le pays vient d'obtenir le certificat de reconnaissance du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, l'une des plus hautes distinctions dans le domaine alors de l'aviation civile mondiale. La distinction a été remise au directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, ANAC Togo, Idrissou Abdou Arabou, à l'occasion de la 42e Assemblée de l'OACI qui se tient à Montréal, au Canada. Concrètement, le Togo est distingué pour ses efforts en matière de sûreté aérienne et dans la mise en œuvre des normes de pratique recommandées SARP de l'OACI. Le pays a en effet passé avec brio l'audit de sûreté mené par l'organisation entre février et mars 2025, enregistrant un taux de conformité aux normes de sûreté supérieur à 90%. Dans les faits, le Togo est premier en Afrique de l'Ouest et du Centre, deuxième en Afrique et troisième mondial derrière le Kenya avec 91%. Et Israël, 99%. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse puisque des journaux en parlent aujourd'hui, notamment le journal L'Union en parle. Bien sûr, nous allons aborder le sujet. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 30 septembre 2025. Et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi d'A TV assure la mise en onde. Jérôme Dakouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktoisie à Dapan. Et merci à vous tous et qui nous suivez partout sur l'étendue du territoire national. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Eric Parkoudio-Diosson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour.
Eric, je ne te vois pas souvent en veste, cette fois-ci vous êtes en veste, c'est pour quelle occasion?
Non, mais écoute, j'ai eu une réunion à l'extérieur, c'est pour ça.
On dirait même d'ailleurs une réunion de haut niveau.
Pourquoi pas.
Merci Eric d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui te remercie pour l'invitation.
Esaïe Edo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous, bonjour au grand frère Eric. Non mais il est en veste parce qu'il est consulté. Vous savez que le gouvernement n'est pas encore sorti, donc certainement qu'il est consulté.
Mais voilà, peut-être c'est toi qui
Et donc dis. Il commence par s'habituer.
Je ne suis pas politique.
Non mais on n'a pas besoin d'être politique avant d'être consulté
pour devenir ministre. Non mais ailleurs on a vu quand même des journalistes qui ont été ministres.
Des confrères qui ont été ministres.
On se souvient de Alpha. Pas. Oui, l'autre qui...
Burkina Faso. Oui. Qui a été ministre des Affaires étrangères.
Étrangères, bien sûr, oui. Un confrère journaliste. Oui. Alors, ça veut dire que au Togo, on peut retrouver aussi la même chose.
Oui, mais pas moi.
Pas moi. En tout cas, moi, j'aurais aimé le voir ministre, mais lui-même, il ne le veut pas. Donc...
Pourquoi pas. C'est vrai, Esaïe, je ne te vois pas aussi de temps en temps en veste. Des fois, on se dira, c'est pour se faire plaisir.
Oui, des fois, il faut se faire plaisir. Vous savez, c'est vrai, on dit ce n'est pas vraiment ce qu'on veut ou encore ce qu'on désire qu'on a tout de suite, ben il faut se faire plaisir par moment. Il ne faut pas forcément attendre
une occasion
justement spéciale pour porter la veste. Tant que vous l'avez cousu pour porter ou vous l'avez acheté pour porter. Donc, portez de temps en temps.
Ah, portez de temps en temps, mais pas sous le chaud soleil, quand même.
Évidemment.
Il est véhiculé, climé.
Tu parlais tantôt d'Alpha Barry. Hein,
oui, Alpha Barry, bien sûr. Justement, le nom, oui, effectivement, le nom. Et merci hein, d'avoir rappelé ce nom. Alpha Barry, c'est ça.
Il était correspondant
de RFI. Voilà, il a été ministre alors des Affaires étrangères au Burkina Faso. Merci hein, pour ce rappel. Eric, Claude n'est pas là aujourd'hui puisqu'il a eu un empêchement. Mais nous allons parler culture puisque vous savez quand même nous parler aussi des sujets culturels avec votre journal L'Union. Et effectivement, vous êtes revenu sur un sujet. Vous écrivez Femivo, devenu Femito 2025 sous le thème L'éducation, la clé de l'avenir du 29 octobre au 2 novembre. C'est bien cela, Eric.
Oui.
Femivo est devenu Femito.
Oui, Femivo, festival des musiques de Vaud, qui s'est nationalisé en quelque sorte en devenant Femito, festival des musiques du Togo. Alors, les organisateurs expliquent cela en disant qu'ils veulent donner une certaine amplitude à ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce que là, c'est la 6e édition qui va se tenir du 29 octobre au 2 novembre prochain. Et donc, pour l'occasion, le thème choisi, c'est l'éducation, la clé de l'avenir. Et donc, ils veulent mieux représenter la richesse et la diversité de toute la culture musicale togolaise. Et donc, c'était au cours d'une conférence de presse qu'ils ont eu à organiser le jeudi 18 septembre dernier pour présenter quand même tout ce qui va se faire au cours de ce festival très important. Il y aura à peu près une quarantaine de musiciens, d'artistes confirmés de la chanson togolaise qui vont prester à Lomé et à Vaughan. Et donc, c'est dire que quand ils ont commencé ce festival-là, c'était pour le développement, ce qu'ils avaient dit au départ, pour le développement de la musique dans la préfecture de Vaud. Aujourd'hui, ils pensent que rester dans la préfecture de Vaud ne suffirait pas parce qu'il faut donner une certaine ampleur à ce festival-là qui va porter sur toute la musique de notre pays. Et au cours de ce festival, justement, il y aura des panels, des rencontres, et ils ont prévu 3 grands concerts, et également ils ont prévu un dîner de gala et une nuit des jeunes talents. C'est là où le festival devient très intéressant, parce que les artistes en herbe, souvent ils restent en herbe jusqu'à finir leur carrière. Maintenant, au-delà, ils veulent sortir ces talents-là pour qu'ils puissent éclore. Donc, c'est un festival très important qui va s'organiser du 29 octobre au 2 novembre entre Lomé et Vaughan.
Entre Lomé et Vaughan. Oui, Esaïe, c'est vrai que on a connu aussi en Côte d'Ivoire un festival de la même allure. Oui. Je veux bien parler alors de FEMUA. FEMUA qui est le festival alors de musique alors de Danumabo. Et quand on prend FEMUVO avec aussi son élargissement vers tout le pays aujourd'hui, est-ce que finalement l'allure ne sera pas respectée aussi comme FEMUA?
Non, moi, depuis qu'on parle de FEMUVO, moi, je m'attendais à ce que les organisateurs ou encore le promoteur pensent justement à en faire un festival au niveau national, parce qu'il le faut. Si on est concentré sur une préfecture, parce que Vaud, c'est juste une préfecture, ce n'est même pas une région, alors que la musique, au-delà de tout, c'est une affaire national. Du coup, si aujourd'hui l'organisateur ou le promoteur pense qu'il faut en faire un événement national, je pense, en tout cas de mon humble avis, que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut mettre les moyens, il faut que les acteurs du monde musical s'associe également à l'événement, parce que, à ce que je sache, le promoteur n'est pas en tout cas un musicien ou un artiste que pour que nous disions que voilà, que c'est un artiste qui porte l'initiative. Donc il va falloir quand même que tous ceux qui sont dans le monde musical acceptent quand même s'associer à cette initiative, parce que pour moi c'est très important. Puisqu'il n'y a pas vraiment un tel festival au Togo qui fait la promotion de la musique.
Surtout sur le plan national.
Sur le plan national, c'est vrai. Je crois qu'il y a la semaine de la musique ou journée internationale de la musique où on organise quelques concerts et puis ça s'arrête là. Mais ici, je crois qu'il s'agit pour les artistes de se retrouver, de réfléchir sur la musique togolaise, comment porter la musique togolaise au-delà de nos frontières. C'est vrai, il y a certains artistes qui sont déjà vus au-delà de nos frontières. Mais quand on parle de la musique togolaise, de façon... voilà, la musique togolaise en elle-même, sur le plan international, quelle est la perception? Qu'est-ce qu'on pense de la musique togolaise? Quand nous parlons tout de suite de la musique ivoirienne, ben, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais quand on parle de la musique togolaise, de quoi il s'agit, c'est vrai, on connaît quelques artistes, on connaît les Toufan, on connaît King Messin et autres. Mais la musique togolaise en elle-même, ça, quelle est sa valeur sur le plan international? Je pense que progressivement, avec cette initiative ou ce festival qui est devenu... un festival national, nous y arriverons. C'est vrai, tout de suite, on ne sera pas à la hauteur du festival d'Anoumabo, mais avec le temps, si, comme je le disais au départ de mon développement, si les acteurs du monde musical s'associent, acceptent accompagner l'initiative, et également au niveau de l'État, les autorités acceptent accompagner l'initiative, je crois que demain, si je dis demain, dans les années à venir, on parlera de la musique togolaise comme un poids sur le plan international, parce que ça fait partie aussi, quand on parle de la diplomatie, c'est vrai, on parle d'économie, aujourd'hui il y a le sport qui est en train de devenir un poids sur le plan diplomatique, la musique aussi. Donc avec l'accompagnement de tout le monde, je crois que demain, on parlera de la musique togolaise.
D'accord, oui. Eric, c'est vrai que Esaïe a évoqué un sujet quand même très important, c'est-à-dire aujourd'hui, quel est l'impact alors de la musique togolaise, surtout sur l'échiquier international. C'est vrai, nous avons connu, alors où nous connaissons des artistes alors de grand nom, bien sûr, au Togo, il y a Kigmessan, il y a les Toufan, il y a d'autres artistes même d'ailleurs hein, qui font la pluie et le beau temps, bien sûr, dans notre pays. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la musique qui doit être vraiment ce ciment ou ce ferment-là qui doit embraser même d'ailleurs tout le pays et que les uns les autres doivent se reconnaître dedans finalement, est-ce qu'on arrive à cela?
Alors, je pense que tu es en train de parler d'une identité musicale togolaise. C'est vrai que aujourd'hui la chose ne prend pas, tout simplement parce que, comme on le dit, il faudrait que nous-mêmes d'abord, nous acceptions ce que nos artistes nous proposent. Et là, il y a des artistes, vous avez cité tout à l'heure Kigmessan, qui fait un peu dans le modernisme et le traditionnel. Et donc, est-ce que nous-mêmes, nous acceptons déjà ce que Kigmessan nous propose? Il faudrait que Kigmessan soit véritablement accompagné pour que ce qu'il fait en alliant le traditionnel et le moderne devienne quand même une identité pour notre pays. Il y a eu des artistes qui ont essayé également, mais je veux parler de Agbotti Yao et des choses qui ont essayé, mais pourquoi ça ne prospère pas? Parce que nous-mêmes, nous ne vendons pas notre culture. Je crois que avec ce genre d'initiative, il faut pas oublier aussi qu'il y a les Togo All Music Awards, il y a les AMA aussi, et les comment ça s'appelle, KMA, ou je sais pas comment ça s'appelle, Kara Music Awards, et donc c'est des initiatives quand même pour accompagner les artistes de la musique au Togo. Mais il faudrait véritablement qu'on mette l'accent sur ce qui nous identifie. Il disait tout à l'heure que quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout de suite, tout le monde sait que c'est Zouglou, c'est ceci et cela. Quand on parle de la RDC, c'est Soukous, la Rumba, etc. Mais nous avons quelle identité musicale? Je crois qu'avec ces initiatives, si tout le monde s'y met, si tous les acteurs de la musique s'y mettent, je crois que ça peut donner quelque chose. Aujourd'hui, très franchement, nous n'avons pas cette identité-là en bonne et due forme où tout le monde un peu se saisit de la chose. C'est vrai que les Toufan font également beaucoup de prouesses. Hein, et ils remportent des prix et les jeunes qui suivent aussi. Mais c'est pas forcément une identité togolaise.
Pas forcément une identité togolaise. Oui, Esaïe, aujourd'hui, en matière de musique, il faut arriver justement à trouver cette identité comme cela se doit. Tout récemment, j'ai assisté quand même au lancement d'un groupe musical, c'était à l'espace Miva, où je vais bien parler alors de ce groupe Ancestors. Ancestors, et là, le groupe était d'abord en résidence, et après la résidence, le groupe est sorti pour des sonorités, rien que des sonorités alors authentiques alors du pays. Et là, on parlait même d'ailleurs du reggae qui déjà aurait pour origine le Togo. Et quand on fouille les choses, on se demande mais si c'est vrai que peut-être ces sonorités viennent alors du Togo, ces rythmes viennent alors du Togo, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à valoriser cela?
Non, mais je crois que Eric, dans son développement, a touché du doigt un point qui est très important. Est-ce que nous acceptons déjà ce que nos artistes nous proposent? Ce groupe en question dont tu parles tout à l'heure, c'est vrai, c'est un groupe qui propose quelque chose d'original, qui reflète nous notre identité. Mais la réalité, là aussi, c'est qu'on a plus tendance à aimer la musique qui est importée. Je parlais tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de Togolais se retrouvent dans la musique ivoirienne, alors que la musique de chez nous, c'est un peu négligé. Si on invite des artistes qui font rien que de la tradie, vous n'allez pas voir des gens derrière, parce que on estime que bon, que c'est la vieille école, c'est des gens de l'antiquité, que ces choses-là sont révolues. Or, c'est ce qui fait notre identité. Maintenant, ce qui reste aussi, quand vous prenez Zouglou en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est parce qu'ils ont réussi à moderniser ça d'une manière. Et déjà, ça a permis, le fait de moderniser cela a permis aux Ivoiriens de l'accepter et d'en faire une identité. Et donc, c'est ce qui nous revient aussi. Arriver à moderniser ou encore à associer la modernité puis la tradition pour en faire quelque chose d'unique et original. Donc, je crois que c'est ce travail qui reste à faire. Même les artistes que nous évoquons tout à l'heure, qui sont vus sur le plan international, ce n'est pas forcément quelque chose de traditionnel ou qui est unique au Togo, que ces artistes valorisent sur le plan international. Donc c'est une question d'acceptation sur le plan national d'abord, avant que ça n'aille. Même quand vous prenez nos médias, c'est toujours la musique importée ou encore la musique moderne qui est jouée sur ces médias. Du coup, il y a un travail d'abord au niveau des artistes et il faut aussi que la population soit en mesure d'accepter et d'accompagner les artistes qui proposent les choses qui sont originales.
Oui, justement, Eric, il faut justement proposer des choses originales, mais au-delà de tout, il semble que ce qui est original et ce qui vient de chez nous n'est pas vendable.
Oui, il s'agit là d'une question de, vous savez, comme on dit, la musique, elle est universelle. Tout ce qui est musique, comme on dit, la musique adoucit les mœurs, et donc tout ce qui vous vient et qui vous impacte, vous l'acceptez. Maintenant, ici, on a un véritable problème. Ce qui vient de chez nous n'est pas forcément le mieux pour nous. On va jusqu'à même critiquer et sans apporter quelque chose. On dit que c'est pas bien. Bon, alors que, vous savez, au-delà de ce que proposent les artistes, il faut beaucoup de communication autour. Il faut vendre ce que les artistes togolais proposent. Et qui va le faire? D'abord, il y a aujourd'hui, quand vous prenez dans d'autres pays, c'est des entreprises qui prennent en charge ces artistes-là. Elles font quoi? Elles vont d'abord, vous savez, quand vous écoutez la même musique tous les jours, même si elle est mal faite, finalement, vous l'acceptez.
Oui. Et vous l'adaptez.
Et vous vous adaptez à cela.
Justement.
Et donc, je crois que c'est ce travail-là qui doit se faire derrière chaque artiste qui essaie de proposer quelque chose d'original. Vous parliez tout à l'heure de la résidence de ce groupe Togo-France-Jamaïque.
Jamaïque, justement.
Qui était en résidence et ils ont fait même... un concert à Baudrefort et ils étaient à Lomé dernièrement et ils se projettent même sortir du pays
voilà,
avec les
plus
fruits
précisément en Tanzanie
voilà avec les fruits de ce qu'ils ont eu à faire pendant cette résidence culturelle et je crois que c'est des choses comme ça figure-toi que c'est l'Institut français du Togo qui a pu cette résidence-là avec Togo Créatif. Et donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous-mêmes, au niveau de nos instances de la culture du pays, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut qu'un artiste, Par exemple, les Toufans, vous savez, quand ils ont commencé, il y a quand même RFI avec Claudicia qui s'est dit « Ah tiens, ces jeunes-là, ils ont de l'énergie, ils proposent quelque chose. Pourquoi pas ne pas les appuyer ?» Et ça a commencé comme ça. Or, ce que les Toufans ont proposé dès leur départ, tout le monde avait aimé. Mais la suite, c'est quoi ? Personne au pays n'a pu les accompagner en tant que tel. C'est vrai qu'il y a eu des mécènes qui ont appuyé leurs concerts. Ils étaient sur de petits concerts quand même. Mais ce n'est pas encore ça. Il faut véritablement que aujourd'hui, avec l'aide de l'État à la culture là, que l'on se propose véritablement d'aider nos artistes qui proposent des choses véritablement originales comme tu venais de le dire.
Esaïe, c'est vrai que Erika a touché un autre point qui concerne surtout cet appui de l'État ou des instances, surtout publiques, à cette musique en question. Mais finalement, on se demande, Marty, alors de politique musicale, c'est quoi justement ce que l'État a comme politique musicale? Puisque quand on parle alors de la promotion de cette musique, de la valorisation de cette musique, ça viendrait aussi de là. On a connu des groupes qui ont fait des merveilles en matière musicale. Il y a Wézépé, justement, il y a Sasamasso, il y a Voodoo Game, il y a les Nana Bass, et tous ces groupes-là, quand même aujourd'hui, qui n'ont pas reçu l'accompagnement qu'il faut, surtout venant de l'État. Est-ce que finalement aussi, notre problème ne vient pas de là?
Oui, mais je crois que la réponse est déjà là. Si on ne retrouve pas aujourd'hui un véritable appui de l'État à la musique, ce qui voudra dire que quelque part aussi, voilà, le problème est là. Et moi, tu parlais de politique musicale, moi je parlerai de politique culturelle.
En général.
Oui, sur le plan culturel. Quel est l'accompagnement de l'État aux acteurs culturels? C'est vrai, nous le disons toujours que l'État fait quelque chose, puisque il y a un fonds qui est prévu, sauf que la cagnotte n'est pas aussi importante que cela.
Mais quand on va aussi questionner la gestion de ce fonds, on se pose assez de questions.
Oui, ça c'est un autre problème. Je crois que si on veut rentrer dans ça, là tout de suite, on risque de traîner là-dessus. Alors que le problème, il est là. Quel accompagnement pour les acteurs? Aujourd'hui, d'abord, on parle de salles de spectacle. C'est vrai, généralement, les gens vont au palais des congrès ou encore on prend les stades. Mais ça commence par là aussi. Nous n'en avons pas.
Et même les centres culturels qui n'existent pratiquement plus.
Oui.
Ces centres culturels
qui disparaissent malheureusement. Donc, ce sont sur de petits trucs, en tout cas, moi, je dis de petits trucs, sur lesquels l'État pouvait mettre des moyens pour justement soutenir les acteurs culturels. Mais ça en manque énormément. C'est vrai, on nous dira que l'État fait quelque chose, puisque je parlais d'un fonds tout à l'heure. Mais la réalité est que ça en manque énormément. Vous l'avez souligné, généralement c'est l'Institut français qui vient en aide aux acteurs culturels. C'est déjà quelque chose. S'il y a des partenaires qui accompagnent, ce qui voudra dire que l'État même doit se positionner pour soutenir ses partenaires ou travailler avec ses partenaires pour que le financement ou le besoin des acteurs culturels soit justement comblé. C'est vrai, on ne va pas dire que l'État doit tout faire, mais du moment où il y a des partenaires qui essaient de combler un vide ou d'apporter quelque chose, il faut que l'État aussi fasse sa part. Malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand vous écoutez tous les acteurs culturels, ils vous diront cela, que ce soit des écrivains, des chanteurs, ils vous diront que voilà, qu'ils n'ont pas l'accompagnement nécessaire de la part de l'État. Ça fait qu'ils vont vers des partenaires d'autres qui se tournent vers l'extérieur. Mais là encore, c'est encore compliqué. Du moment où il n'y a pas le soutien sur le plan national, en trouver sur le plan international devient encore plus compliqué.
Oui, mais quand on prend les promoteurs culturels, Eric, c'est vrai qu'à un moment donné, les promoteurs culturels, surtout hein, de la musique, ont toujours exigé, ou du moins ont fait cette doléance, qu'il y ait au moins un palais de la culture pour que des activités culturelles soient animées là-bas. Mais toujours est-il que leur demande ne trouve pas alors d'écho favorable. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la priorité actuellement, Eric?
Oui, c'est une priorité, mais il faudrait également que les gens s'organisent à un certain niveau donné. Regardez un peu, on dit qu'il est promoteur, il est manager et tout ça d'un artiste, mais vous voyez des artistes prendre leur CD et circuler pour vendre eux-mêmes. Déjà, c'est un faux pas. Vous voyez ces artistes-là qui vont se tourner vers le butodra pour percevoir des droits d'auteur. Et combien chaque année? Je crois que tout ça, c'est que les acteurs culturels, surtout de la musique, qui s'organisent eux-mêmes d'une autre façon. Si pendant longtemps, vous avez une stratégie qui ne marche pas, il faut penser à autre chose. Les centres culturels qui sont en train de disparaître, le plus souvent, c'est des centres culturels privés. Il n'y a pas un centre culturel public. Avant, on parlait dans les préfectures des centres qui sont logés dans les sièges des préfectures où les gens pouvaient aller et regarder de petits concerts et tout ça. Mais tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'organisation autour de la culture dans notre pays. C'est vrai, il faut que tout ça là se refasse et que ceux qui sont dans l'industrie musicale pensent déjà à faire quelque chose. Vous savez, on dit qu'il y a l'appui de l'État à la culture. Mais si ce qui est destiné à la musique, ils peuvent s'organiser en disant que nous, ce que nous voulons faire de cette cagnotte-là cette année, c'est de démarrer la construction d'un centre culturel. Je crois que ça peut prendre, après, ça va prendre du temps, mais après 2 ans, 3 ans, on peut avoir déjà quelque chose en place. Et après, et pourquoi pas peaufiner et tout ça pour que ça devienne quelque chose de concret où les artistes pourront aller prester à tout moment.
Esaïe, c'est vrai qu'il n'y a pas que des problèmes dans la musique, mais au niveau du sport, notamment du football aussi, on a aussi nos lots de problèmes. Et c'est vrai, il y a le journal L'Équipe hein, qui revient sur justement un problème aujourd'hui dans le football. Et c'est dans une tribune que le confrère Aimé Ekpe a publié. Et cette tribune est titrée « Au secours ». Au secours, et je vous lis juste alors le chapeau alors de cette tribune. Et le confrère écrit « Le football des jeunes au Togo traverse une crise qui ne peut plus être ignorée. Les éliminations répétées des sélections U17 et U20, la dernière en date au tournoi de l'UFOA B en Côte d'Ivoire, qualificatif pour la CAN U17, révèle une faillite structurelle bien plus grave qu'un simple accident sportif. Ces échecs permanents et chroniques privent le pays d'un avenir serein et enferment les éperviers dans un cycle de désillusion. » Ça, c'est en quelque sorte le chapeau. Mais quand on lit justement le confrère et Esaïe, on comprend tout simplement que les problèmes, on n'en a pas seulement au niveau alors de la musique, mais dans le football, et surtout le football à la base a aussi des problèmes.
Oui, malheureusement, le constat du confrère est réel et je pense que ce constat est partagé par tout le monde. Il suffit d'aller au stade quand les éperviers ont match, toutes catégories confondues, et vous allez remarquer tout de suite que le football togolais a réellement deux problèmes. C'est vrai, il y a quelques années en arrière, on se plaignait du fait que il n'y a pas une politique sportive et que le sport à la base n'est pas développé. Aujourd'hui, je crois qu'on a fait l'effort d'avoir toutes les catégories d'équipes, mais le problème se pose toujours. Ce qui voudra dire qu'au niveau de la pratique ou de la mise en œuvre de cette politique sportive, il y a un réel problème. Les U17 étaient allés au tournoi de l'UFO à la fois dernière en Côte d'Ivoire. Ils sont éliminés, je crois, ils sont revenus avec 2 points après 2 matchs nuls et une défaite. Mais moi, le constat que j'ai fait et j'en ai partagé avec certains acteurs du football, c'est que c'est vrai, nous disons que nous voulons faire le football à la base. Mais comment est-ce que nous le faisons? Ces U17 qui sont allés, ils sont éliminés. Chacun rentre chez lui et puis bon, c'est fini. C'est-à-dire, ça s'arrête là. L'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais plus la périodicité de cette compétition, dans 2 ans ou dans une année, quand il y a encore la compétition, on fait appel encore à d'autres personnes. Peut-être on va retoucher quelques-uns de ces jeunes qui ont participé à cette compétition et on recommence. Ce qui voudra dire que quoi? Il y a un problème de suivi. Quand vous prenez les éperviers locaux, le même problème se pose. On va, dernièrement, il y a eu les éliminatoires. Le Togo ne s'est pas qualifié, je crois, éliminé par le Niger. Ceux qui ont joué cette compétition d'élimination, demandez aujourd'hui à l'entraîneur Kouba Diakader que ces joueurs, ils sont où? Il ne saura vous donner une réponse. Parce que quoi? Chacun est retourné à ses occupations. Chacun va à ce qu'il fait depuis. Et quand il y aura encore la compétition, on fera encore appel peut-être à d'autres personnes et ça recommence. Et donc, quand c'est comme ça, ce qui voudra dire que quoi? On n'aura jamais une équipe capable de mouiller les maillots pour rapporter la victoire. La même chose se pose, le même problème se pose au niveau de la sélection, je crois que c'est senior, la sélection A.
C'est la sélection nationale.
La sélection nationale. Là aussi, voilà, Daré est arrivé, il a préféré faire avec les expatriés qui ne jouent pas forcément certains dans leur club, et là encore, qui sont dans des clubs qui sont des championnats moins compétitifs, mais ce sont eux que nous alignons. Or, nous avons un championnat au Togo. C'est vrai, nous disons que notre championnat n'est pas encore un championnat de haut niveau. Mais si nous travaillons avec ces joueurs, avec un suivi réel, je crois qu'on réussira à bâtir une équipe. Mais si on compose avec quelques-uns aujourd'hui, après une compétition, on les laisse. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de regroupement d'entraînement parce qu'il n'y a pas de compétition. Et quand de nouvelles compétitions vont s'annoncer, on fait appel encore à quelques d'autres, on fait avec eux, ça repart. Même chose au niveau du football féminin, chez les dames, c'est la même chose. Le Togo a joué pour la première fois la CAN, je crois ça doit être en 2023 ou 2022, je ne sais plus. Mais demandez aujourd'hui ces joueuses qui ont joué la CAN féminine, je crois que c'était au Maroc, ces joueuses sont où aujourd'hui? Chaque fois qu'il y a de nouvelles compétitions, on fait appel à de nouvelles personnes. C'est ce qui fausse c'est ce qui fait que le problème se pose aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective? Est-ce qu'on n'a pas de perspective?
Je suis obligé de répondre oui qu'il n'y a pas de perspective. Parce que si on a de perspective et qu'on veut vraiment bâtir une équipe, on ne va pas composer avec telle personne aujourd'hui, on laisse parce que voilà, la personne a fini la compétition, une autre compétition, on appelle encore d'autres personnes, ce qui voudra dire que quelque part, il n'y a pas de perspective, malheureusement.
Et Eric, c'est vrai que quand le confrère continue en écrivant, et je vais parler alors du confrère L'Équipe, et le confrère écrit football, élimination des clubs togolais, des coupes interclubs de la CAF, remise en cause est écrit en grand caractère et en rouge surtout. Mais est-ce que justement ça n'interpelle pas aujourd'hui les acteurs surtout du domaine, c'est-à-dire du secteur de football, pour que les uns et les autres arrivent à s'en saisissent alors, surtout alors du problème?
Alors, je veux commencer ce raisonnement en prenant l'exemple de 2 pays. Le Sénégal et le Maroc. C'est des pays qui ont décidé de développer leur football. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en se disant, dans 5 ans, nous serons à ce niveau. Donc c'est une projection que ces pays-là ont fait et aujourd'hui, on a les résultats. Ils ont commencé par mettre en place des académies de football. Aujourd'hui, au Togo, il y a plusieurs académies de football. Mais il faut compter sur les doigts ces académies qui ont des infrastructures dédiées forcément au football. Il ne suffit pas d'avoir un terrain. Vous avez le terrain. Le terrain, il est peut-être en latérite. Il n'y a pas de gazon. Mais les gens ne vont pas compétir sur vos terrains. Les gens compétissent sur du gazon. Il faut compter sur les doigts ces académies qui ont des infrastructures dédiées. Alors, je dis, si on a une politique de football, véritablement, on devrait déjà commencer par accompagner ces académies-là qui ont déjà commencé par faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien, vous avez les infrastructures, vous avez les encadreurs. On ne va pas prendre n'importe qui comme encadreur dans une académie. C'est des gens qui ont véritablement eu leur formation. Ils sont des entraîneurs certifiés.
Et expérimentés.
Expérimentés, oui. Mais tu sais, et même ces encadreurs-là aussi apprennent à partir de ces académies. Et donc, l'expérience peut jouer, mais forcément, il faut qu'ils soient formés pour pouvoir atteindre des objectifs qui seront fixés. Il y a tout récemment une compétition des académies à côté ici au Bénin. Aucune académie togolaise n'a participé à cette compétition. Il y a eu une compétition des académies au Maroc. Seule l'académie Swallows a participé à cette compétition. Mais la prestation de ces jeunes-là, mais ça a épaté tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment? C'est de se dire, attention, il y a quelque chose qui se fait déjà dans ce centre-là. Il faut prendre les jeunes qui sont là, qui ont déjà commencé par sortir et par avoir une certaine expérience. Claude Leroy avait commencé un truc où il allait chercher des pépites sur toute l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, ça s'est arrêté.
Mais Eric, sur ce point, il y a Tarek qui nous a promis aussi cela. Vous vous souvenez que non, quand il, enfin, le travail qu'il fera, c'est d'aller quand même dans le fin fond alors du pays pour chercher également des pépites.
Tarek a déjà un problème, c'est qu'il est venu rentrer automatiquement dans les compétitions.
C'était ça le problème.
À quel moment il pourra s'occuper de cette recherche de pépites sur l'étendue du territoire? La deuxième chose qui est importante, c'est l'organisation des compétitions de toutes les catégories de joueurs. On part des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors, etc. Mais au-delà, nous n'avons même pas de championnat en bonne et due forme. Il faudrait aussi organiser des compétitions pour que les joueurs que vous allez sélectionner soient déjà compétitifs. Il disait tantôt qu'on prend des joueurs qui n'ont même pas de club, qui ne sont pas compétitifs pour venir jouer à l'équipe nationale. Quand vous regardez un peu ce qui s'est passé récemment avec l'équipe nationale qui a gagné la Mauritanie.
Le Soudan.
Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait tellement de... des occasions
ratées.
Mais quand les joueurs ratent ces occasions-là, vous comprenez en même temps qu'ils ne sont pas compétitifs, tout simplement. Ailleurs, tous ces joueurs-là jouent, même si c'est le championnat national, c'est dans les clubs du championnat national qu'il faut faire la sélection nationale, il faut que ces joueurs-là jouent quand même, qu'ils soient compétitifs. Et puis, il soulevait un truc tout à l'heure de façon anodine, mais c'est très important. On a vu des jeunes Togolais jouer la CAN des cadets ici. Mais ce groupe-là est où?
2007.
Justement, 2007.
Mais ces jeunes-là sont où aujourd'hui? Et donc...
Des jeunes quand même qui ont fait assez de performances. Hein?
J'avoue. Maintenant, au-delà de tout, tout le monde veut que ces joueurs jouent dans de grands championnats et tout ça. Oui, il faut vendre les joueurs. Mais après, quel est le suivi de ces joueurs-là qu'on envoie à l'extérieur? Et pour finir, il y a également des guerres qui sont, je ne sais pas, qui ne font pas avancer notre football.
Enfin, des conflits
interpersonnels. Des gens qui ne s'accèdent pas, mais qui se retrouvent parce qu'ils doivent gérer ensemble. Il y a certains qui se disent qui sont plus importants que d'autres. Et aussi, il faut que nos arbitres qui sont là, qu'ils soient véritablement de bons arbitres. Parce que parfois, c'est ça qui cause des problèmes. On a des terrains qui sont aujourd'hui sanctionnés parce que des supporters n'ont pas accepté des arbitrages et tout ça. Autant de situations qu'il faut régler en amont pour véritablement penser à un football vraiment élogieux dans notre pays.
Mais Esaïe, finalement, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui revoir même toute la politique sportive dans notre pays?
Oui, c'est ce que je disais, je crois que c'est ce que Eric aussi dit. C'est vrai, nous avons l'intention où nous voulons aller quelque part, mais en amont, nous ne nous sommes pas retrouvés pour discuter, faire des prévisions, où est-ce que nous voulons aller et comment est-ce que nous pouvons arriver là-bas. C'est ce qui manque. Je disais tantôt qu'il y a quelques années en arrière, où nous n'avons pas des équipes de jeunes aux différents niveaux. Aujourd'hui, on essaie de mettre en place ces différentes équipes à de différents niveaux, enfin les différentes catégories. Mais on voit que le résultat ne suit pas. Ce qui voudra dire que, quelque part, il n'y a pas eu un travail qui a été fait en amont. C'est comme on s'est lancé dedans, juste comme ça. On parlait tout à l'heure du Sénégal. Si le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique, je crois que c'est la dernière édition, si le Sénégal a remporté, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et beaucoup de joueurs qui ont évolué dans l'équipe sénégalaise sont des jeunes qui sont sortis des académies, qui sont au pays. Et vous avez vu, le Sénégal a finalement raflé tout à tous les niveaux. C'est-à-dire à toutes les catégories, que ce soit les U17, les U20 ou tout ça, le Sénégal a tout raflé. Ce qui voudra dire que quoi? Il y a un véritable travail qui a été fait. Mais chez nous, ce travail manque. Ça manque parce que quoi? Les acteurs. Eric l'a dit tout de suite, et c'est important. C'est parce qu'il y a des acteurs qui ne s'acceptent pas. Il y a des personnes qui ont des idées. Mais puisque ce n'est pas elle qui est aux affaires ou ce n'est pas elle qui est au devant, la personne préfère garder son idée, pas pour que on ne dise pas que l'autre là qui est là, que c'est lui qui a porté le football haut. Donc,
mais justement sur ce point, est-ce que pour la chose de la République, c'est-à-dire quand nous sommes patriotes et nous voudrons vraiment faire la chose de la République et pour le développement surtout de cette République, est-ce qu'on ne doit pas transcender ça?
Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend la chose de la sorte. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui. On ne va pas peut-être rentrer dans les détails, mais quand vous allez aujourd'hui à la fédération, le bureau de la fédération même, ce sont des gens qui ne s'acceptent pas, mais ils sont tous dans le même bureau. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Quand vous prenez le staff des éperviers, C'est vrai, au départ, nous tous, nous avons eu écho de ce problème où Daré ne voulait pas forcément de Kader comme adjoint. On ne sait pas si finalement, c'est du fond de cœur qu'il a accepté que Kader soit là. Est-ce que Kader, du fond du cœur, aimerait vraiment travailler avec Daré? On ne sait pas. Donc, il y a ce problème qui se pose aujourd'hui. Tantôt, il y a des acteurs comme les Ameyi, les Rock, Niasingbe, qu'on connaît.
Les Tata Vlessi.
Les Tata Vlessi, justement, qu'on connaissait. Mais tous ces acteurs, ce sont des gens qui, aujourd'hui, ne se parlent pas. Mais quelque part, on a besoin de leurs expertises.
Et qui sont écartés alors du football. C'est des acteurs très importants.
Justement,
du football.
Ils sont aujourd'hui très, très loin du football, ou du moins de la fédération. Ce qui voudra dire que quoi? Il y a un réel problème. Il faudrait que l'on s'accepte et transcende justement les intérêts personnels pour qu'on s'asseye, on définit ensemble là où nous voulons aller et comment est-ce que nous voulons aller là. Sans cela, je crois que nous n'arriverons pas. Tout ce qui se fait aujourd'hui, d'ailleurs, le résultat en dit long, et les résultats resteront ainsi si les acteurs ne se retrouvent pas pour définir de façon unanime la politique sportive qu'il faut pour notre pays.
Eric, au-delà de tout, au-delà même d'ailleurs de ces problèmes, notre pays fait des exploits quand même dans des domaines. et le pays est apprécié. Et vous l'avez confirmé, bien sûr, avec justement votre une ce matin. Et j'en parlais déjà dans mes mots introductifs où je disais que le Togo, notre pays, confirme sa position de hub aérien stratégique en plein essor. Et le pays vient d'obtenir le certificat de reconnaissance du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, l'une des plus hautes distinctions dans le domaine alors de l'aviation civile mondiale. Et vous écrivez dans ce sens, vous écrivez « Excellence en matière de sûreté aéronautique, l'aéroport de Lomé, premier en Afrique de l'Ouest centre, deuxième en Afrique et troisième au monde. » Et ça, c'est à saluer, Eric.
Évidemment. Nous étions en train de parler du football tout à l'heure. Et on a essayé de lister ce qu'il fallait faire en amont pour avoir de bons résultats. Quand je prends le domaine de l'aviation civile, cette distinction que nous venons d'avoir, que le Togo vient d'avoir, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Il ne faut pas oublier quand même que le Togo a été taxé ou est nommé et champion du MUTA.
Du MUTA, voilà.
Hein, le marché unique de transport aérien en Afrique. Et c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ce résultat, vous vous demandez, mais le Togo a quel aéroport? Le Togo a
justement, c'est la question qui se pose.
Oui. Ce n'est pas la grandeur de l'aéroport qui pose problème, mais...
Ou peut-être le nombre d'aéroports.
Non, pas du tout, mais c'est plutôt la qualité du travail qui s'effectue sur le terrain. Vous savez, il y a l'ancien directeur de l'ANAC, le colonel Latta, qui disait toujours que l'avion est le meilleur moyen de transport. Hein, et il le disait avec une certaine conviction que le Togo va dépasser pratiquement tout le monde. Pourquoi il le disait? Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à l'ANAC, on a des ingénieurs qui pratiquement ne sont plus là. Pourquoi? Ils sont toujours appelés pour venir apporter leur expertise dans d'autres pays. Ils sont tout le temps invités dans pratiquement tous les pays pour pouvoir travailler, même en Europe, attention. Et donc, ce que nous venons d'avoir comme résultat, oui, on l'a dit, tu l'as effleuré, en disant que c'est un audit qui a été effectué par les experts de l'OACI, qui est l'instance mondiale de l'aviation civile. Et donc, cet audit a été effectué entre février et mars dernier. Et c'est comme chaque année. Et donc, on évalue tout ce que vous faites. Quand un avion arrive, jusqu'à son départ, comment cet avion a été traité, quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez, est-ce que vous respectez les normes de l'OACI, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on vient dire que le Togo dépasse la France en matière de sûreté et aéroportuaire. Mais c'est fabuleux. Et donc, je crois que ceci, nous devions capitaliser cela, car quand les compagnies aériennes apprennent cela, que vous allez sur un aéroport et vous avez toutes les mesures de sécurité, mais ça veut dire que les gens vont tout de suite affluer. Et je vous dis que le directeur général de l'ANAC l'a dit déjà au Canada, que cette distinction-là, c'est parce que le pays veut arriver à un certain niveau, veut rester le hub international ou africain là de l'aviation civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute compagnie peut venir passer par le Togo sans aucun souci. Malheureusement, le Togo pouvait aller encore plus loin. Il n'y a que l'Israël qui a eu 99%.
Presque 100%.
Presque 100%. Et le Kenya qui a eu 91% qui dépasse le Togo, ce petit pays-là, dans le concert des nations dans ce domaine. C'est très important. Et moi, je demande aux autorités de capitaliser cela pour que ça ait forcément des retombées.
D'accord. Esaïe, en matière de la qualité aéronautique, finalement, le Togo fait des exploits.
Oui, le Togo fait des exploits, comme on le dit. Et justement, c'est le fruit d'un travail. Et vous savez, ici, on est en train de parler de la sûreté, de la sécurité. Ce qui voudra dire que quand vous venez à l'aéroport de Lomé, toutes les dispositions sont prises pour que votre voyage s'effectue en sécurité. Ce qui voudra dire que même au niveau des vols, les autorités togolaises ont un regard pour que toute personne qui quitte, en tout cas Lomé pour quelques
destinations
quelconques, puisse justement arriver à destination en sécurité, ce qui voudra dire qu'un travail est fait. Et je me rappelle régulièrement, l'aéroport de Lomé fait cet exercice de simulation pour s'assurer de son dispositif sécuritaire. Est-ce que tout fonctionne bien? Je crois que cette année, ils l'ont déjà fait deux fois. Bon, je ne sais pas trop, mais je sais qu'ils ont quand même fait cette année. Donc, ce qui voudra dire que le Togo prend au sérieux cet aspect. Et comme nous le disons, les autorités le disent tout le temps, l'objectif, c'est de faire du Togo un hub logistique. Et si je vois qu'il y a une concentration sur cet aspect, parce que vous savez, prendre le vol, ça fait partie des moyens, l'avion, c'est l'un des moyens de transport le plus sûr. Et donc, il faut quand même mettre les moyens, et c'est le plus sûr, et c'est aussi le plus catastrophique quand il y a un incident, parce que quand un avion prend peut-être 200 personnes qui a crash, ce qui voudra dire que la perte de vie est énorme. Donc, il faut quand même tout faire pour que la sécurité y ait. C'est ce que le Togo est en train de faire. Je crois qu'il faut apprécier cet aspect-là. Maintenant, ce qui reste encore à faire, moi, c'est un plaidoyer personnel. Je pense que les autorités y travaillent également. C'est au niveau des taxes. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui desservent la capitale togolaise, c'est en raison des taxes qui sont élevées. Je crois qu'il y a la CEDEAO même qui a fait une réunion dernièrement à Lomé pour qu'à partir de janvier, les taxes, en tout cas dans toute la zone ouest africaine, soient revues à la baisse. Je crois que le Togo va adhérer à cela pour qu'on ait plus de compagnies. Vous voyez, quand on parle de sécurité qui est assurée, ça attire les gens, parce que les gens savent que quand nous passons par Lomé, nous avons la sécurité. Mais il y a des compagnies qui ne viennent pas à Lomé, les gens sont obligés d'aller à Cotonou ou à Accra. Mais quand ces compagnies vont commencer par venir à Lomé, parce que voilà, il y a la sécurité qui est là, et les taxes qui sont, il y a certaines taxes qui sont supprimées, ce qui voudra dire que quoi? D'abord, le nombre de passagers va augmenter. Ça fait de plus pour le tourisme du pays, et sur le plan économique, nous aurons tous forcément des retombées.
Eric, est-ce que déjà avec cet exploit, on pourra dire que tout va bien à Lomé, en fait, tout va bien au Togo? tout va bien au Togo, parce que en se référant à cette déclaration alors du ministre des Affaires étrangères,
oui, Robert Doucet,
à la tribune bien sûr de l'ONU.
Oui, vous savez, le directeur général de l'ANAC, le colonel Idrissou Abdou Arabou, a dit que cette distinction leur met plutôt la pression pour mieux faire.
C'est un défi.
C'est un défi et il ne faudrait pas rester ou bien dormir sur ses lauriers parce qu'on a déjà eu cette distinction-là. Cette distinction-là, elle est très importante parce que tous les pays aimeraient quand même, tous les pays de l'OACI aimeraient quand même l'avoir. Mais dire que tout va bien au Togo, ça dépend de l'angle que nous prenons pour dire cela. Robert Doucet, en disant cela, c'est qu'il a présenté un tableau en disant que dans tel domaine, le Togo a fait des efforts. Dans tel domaine, il y a eu des prouesses. Dans tel domaine. Mais cela ne veut pas dire que le Togo est un Eldorado et que tous les citoyens ressentent la chose de la même manière. Je voudrais dire, quand vous prenez tous les efforts qui se font de manière macro, je pense que vous serez du même avis que Robert Doucet. Par contre, quand on veut prendre les choses de façon individuelle ou singulière, franchement, ce n'est pas la même vision ou c'est la même optique qu'on a de la chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes ici, vous avez des problèmes qui sont inhérents à votre milieu de vie. On cherche à régler un problème d'ordre général, mais les problèmes sont différents. Je disais tantôt la semaine dernière que nous venons de très loin. Les problèmes, ça afflue tous les jours. Mais est-ce qu'on pourra tout régler en même temps? Non. Mais avec les moyens qu'on a, on peut essayer de faire un peu pour que les citoyens soient quand même soulagés. Je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut lire ce que Robert Doucet a dit à la tribune des Nations Unies.
Esaïe, est-ce que vous avez aussi l'impression que tout va bien au Togo?
Si je dois être honnête, je dirais non. Non, parce que vous connaissez, nous tous, nous connaissons la situation du pays, les gens en crient tout le temps. C'est vrai, quand Eric disait tout à l'heure que Robert Doucet a vu la chose d'une manière, en tout cas, que c'est en fonction de là où tout le monde se situe, je suis d'accord, mais le problème là, c'est que Robert Doucet, il parle au nom du Togo, et il faudrait voir la chose comme tous les Togolais, en fait, comme tous les Togolais ressentent la chose. Vous avez vu tous les commentaires qui ont suivi la déclaration de Doucet, ce sont les Togolais même qui se sont moqués de lui, parce qu'on estime qu'il n'a pas évoqué ou dit la réalité des choses dans le pays. C'est pour cela, je pense, à mon humble avis, qu'il devrait voir la chose comme tous les Togolais, dans leur majorité, ressentent la chose pour le dire. Dire tout de suite que le Togo va bien, ça voudra dire quelque part qu'en réalité, nous n'avons plus besoin de quelqu'un, enfin, des partenaires, ainsi de suite, nous n'en avons plus besoin.
Attends, est-ce que ce n'est pas aussi un exercice difficile? Parce qu'on ne peut pas imaginer quand même que Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères, aille à la tribune alors de l'ONU pour dire que non, tout va mal au Togo.
Non, est-ce qu'il est obligé d'aller dire tout va mal ou encore est-ce qu'il est obligé d'aller dire que tout va bien? Je pense... Présenter le Togo, oui, c'est bon, mais quand il conclut lui-même en disant que tout va bien, c'est là où se pose le problème. Il a dressé la situation du Togo, d'accord, même si sur les chiffres, les gens ne sont pas d'accord, mais le fait d'avoir déjà dressé la situation du pays, je crois qu'il peut s'arrêter là. Ça revient à tout le monde de tirer la conclusion. Aujourd'hui, si vous dites aux gens que tout va bien et que les gens arrivent, les bailleurs arrivent et qu'ils constatent que non, qu'en réalité, tout ne va pas bien comme l'avait souligné le chef de la diplomatie, là, ça pose déjà un problème. Je pense que dresser, en tout cas de mon point de vue, dresser le tableau du pays suffit largement pour que chacun tire sa conclusion. Ceux qui vont continuer par nous aider, ils vont toujours continuer. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en attente d'un nouveau décaissement du FMI. FMI qui est actuellement au pays pour certaines évaluations. Ce qui voudra dire qu'en réalité, nous avons besoin des gens, que tout ne va pas forcément bien.
D'accord. Alors, on va maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission, vous le savez très bien. Maintenant, vous aurez la parole, bien sûr, vous qui nous écoutez, 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90 45 78 57, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir, pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros bien sûr sur lesquels vous pouvez nous appeler aussi réagir sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons débattu justement alors de différents sujets ici au Club de la Presse. Maintenant la parole est à vous. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission à propos des sujets discutés justement au Club de la Presse. 90 86 35 35 90 85 86 pardon 35 35 91 36 63 75. Allô? 90 86 35 35 91 36 63 115. Ce sont là bien sûr les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bonjour Canal FM, pour ce qui concerne notre football, si seulement notre sélectionneur pourra faire avec nos joueurs locaux ça pour le faire, et il va falloir que notre dirigeant crée des centres de formation pour que nous puissions en avoir des relevés ou des relèves à l'heure de demain. Et je pense que c'est ce qu'il veut l'écrire. C'est André qui nous écrit depuis Dakar. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément. Allô?
Allô?
Bonjour.
Merci.
Votre nom c'est... Alors, oui, Thomas, je pense que l'auditeur n'est pas en contact avec nous. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Les deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bonjour Pascal, tout va bien dans la famille du ministre. Vous voulez qu'il dise quoi? C'est bien sûr Teikossi hein, qui nous écrit bien sûr ce message 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir bien sûr au Club de la Presse. Et bien sûr aujourd'hui, et oui, toute fois-ci, nous attendons bien sûr les appels. Je ne sais pas s'il y a un problème technique, mais toutefois, il y a Thomas également qui apporte, qui s'attire justement de l'autre côté pour que nous ayons les auditeurs dans cette émission et justement, il s'active pour que nous arrivions à être en contact alors avec les auditeurs dans cette émission. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, bien sûr, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Oui, Eric? Eric, si tu le permets, on reçoit cet éditeur. Allô?
Oui.
Bonjour Pélé. Bonjour Pélé, comment vous allez?
Oh, très bien. Bon, allô?
Oui, allô, je vous écoute.
Le ministre Robert Dutté dit tout va bien au Togo. Bon, c'est automatiquement quand vous rentrez à l'aéroport de Lomé, ou bien de Niassingué et Adema, tout va bien. Parce que on vient de découvrir que l'aéroport a occupé le premier rang. Alors, je pense que tout ça là, quand vous quittez l'aéroport directement, parce que c'est pour les étrangers ça, quand vous quittez l'aéroport directement, vous sortez, vous prenez la route pour l'homme de la paix directement à l'hôtel, vous faites bien de la routière, vous dites, c'est fini le monde, et tout va bien. Il faut que les étrangers balancent un peu dans les autres le pouvoir, si tout va bien le mieux. C'est ça. Tout ça, là, nous pouvons dire que c'est bon. C'est grâce au président d'Alonia, qui a mis la sécurité un peu dans le pays et que tout va bien. Maintenant, quand vous citez ce secteur-là pour rentrer dans le secteur du football, qui est pour les nationaux maintenant, est-ce que tout va bien là-bas? Bon, pourquoi avec ce fonds-là qu'on a mis dans l'aéroport, tout ça, là, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi pas pour les stades? Quand vous parlez du sport aujourd'hui, ou bien du football, c'est lié automatiquement à la politique que vous voulez. Et il faut comprendre aussi que demandez-vous depuis 1972, quand le Togo a été qualifié pour la CAN, le premier entraîneur, Guelin, aussitôt là-bas, il a quitté là-bas. En 84, il est revenu, il a quitté, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème au niveau que le sommet doit taper sur la table. C'est fini. Je pense que dans les autres pays, c'est le président qui sort de l'argent, qui sort sortir de l'argent et tout, et mettre le football dans le pays. C'est tout. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Est-ce que les gens n'ont pas aimé le football? Nos leaders, ils n'ont pas aimé le football. Le responsable, le président fort, il n'aime pas le sport, il n'aime pas le football. Il ne peut pas le faire. C'est grâce aux épergnés qu'il est actuellement, il fait 20 ans au pouvoir. Faut rappeler de ça en 2005, quand il était arrivé. Il ne fait pas les épergnés. Je crois que on aura beaucoup de choses à voir dans les années-là.
D'accord, merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, notre ministre a dit que tout va bien. Et sur les autres antennes du monde entier, là, on nous critique. Je demande à Pimet Sekou de faire un tour dans le monde. Sur les antennes, il saura que les gens sont d'accord avec lui. Merci, bonne journée.
Merci, monsieur Gado, pour votre intervention. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va. Francis.
Francis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, là.
Oui. Vous savez, tout ce que j'ai eu à subir.
Oui, effectivement. Ouais. Et toutes nos condoléances.
Je voudrais saluer le plateau. Paco Johnson et Zahi, qui me rappelle pour Famed. Il a disparu. Je voudrais simplement dire que je voudrais parler du football, hein, comme vous le savez, le sport.
Oui.
Que c'est triste qu'on n'a pas une politique sportive au Togo. Pas comme Johnson l'a bien si bien dit, au Togo, il n'y a qu'un seul centre digne de ce nom. Un seul centre, c'est le centre Swallows, l'académie Swallows. À part Swallows, vous allez trouver FSA et après le Romario. Et c'est fini. Mais vous allez voir, on distribue des accréditations à des gens qui font des accords avec des terrains de lycée, de collège et autres, à qui on donne des accréditations qu'ils sont des centres de formation. D'abord, c'est parti de là. Combien nous éjectons dans le football pour que le football marche? Je voudrais rappeler que le chef de l'État, c'est un libéraux. Il joue au football. C'est parce qu'à quelque part près, il y a eu certains comportements qui ont fait que nous, il y a eu de la reculade. Mais je voudrais le prier de ne pas trop s'énerver. Parce qu'à côté, c'est le peuple qui en pâtit. Si certains individus ont posé des actes, il faut qu'ils les arrêtent, qu'ils les enferment. Parce que là également, je dis l'impunité. Vous voyez, ailleurs, lorsque vous revenez d'un match et qu'on vous a gagné, vous passez directement au SCRIC pour donner votre avis ou bien donner des raisons qui ont fait que vous avez joué. Parce que c'est l'argent des contribuables. Mais quand les gens savent que, eh bien, lorsqu'ils vont jouer, s'ils font match nul à l'étranger, ils ont 1 500 000 pour empocher. Puis c'est les frais d'hébergement, tout ça là, qui s'élèvent à 500 000 francs. Mais les gens n'ont rien à foutre. Et vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui sont dans l'équipe, dans le championnat togolais? Ailleurs, comme Goller le faisait, on devait les réunir chaque semaine, au moins 4 fois par semaine. Si l'entraîneur qui a été choisi pour jouer les éperviers locaux en est réellement digne, s'il a une politique réellement sportive, mais sur quelle base est-ce qu'on nomme les entraîneurs également? C'est tout cela. Le Mendefleurisme est rentré dans tout la politique qui est dedans. Donc, très sincèrement, c'est ce qui fait que nous sommes toujours en retard. Si on ne se ressaisit pas, moi je ne dis pas que c'est ceux qui sont à la tête aujourd'hui. Reconnaissons-le, Kakovi n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Mais administrativement, c'est le meilleur président qu'on a connu. Parce que des gens ont fait des dettes de 2 milliards qu'il a payées. Des gens ont créé des situations difficiles qu'il a réglées. Le seul problème, le couac, c'est d'arriver à s'entendre avec le colonel Rock pour que réellement ce qu'on lui a créé à Vangen, qu'il oublie, qu'il pardonne.
D'accord.
Et... Enfin, c'est la seule alternative que je trouve aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup,
merci
Francis.
À vous.
Merci beaucoup, Francis, pour votre intervention et toutes nos condoléances. Une fois encore, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Bonjour, Pascal. Bonjour, Canal FM. Nous demandons pardon au gouvernement togolais que nous aussi, les Togolais du Gabon, on veut descendre dans notre pays, le Togo, et non à Cotonou. C'est Daniel qui nous écrit depuis Gabon. Ça, c'est notre problème, là. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, Jeff.
C'est Sylvain.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, allez-y.
Et je salue tous les autres confrères qui sont en studio avec vous. Et franchement, au Togo, on a l'impression qu'on a la politique politicienne. Il n'y a pas la politique agricole. Et bien, pour que les Togolais mangent à leur faim, si c'est à ce niveau qu'on nous descende des prix, nous on va applaudir l'aéroport. Moi, je ne suis jamais mis pied là-bas. Il n'y a pas la politique au niveau du football. L'autre vient de le dire. Et tout est politisé. Tout est à la politique. C'est que les autorités doivent revoir leur copie. Si on nous descende des prix, sans que les Togolais ne se voient pas dedans, là, il y a un problème. Ces artistes, vous avez parlé de la culture, ces artistes même, comment ils s'organisent? Pendant les évalas de cette année, ils ont demandé à avoir le chef de l'État. Et il y a le rumeur de 30 millions qui circulaient, qui avaient circulé plus tôt. Qu'est-ce qu'eux-mêmes, ils disent et ils font? C'est ça le problème.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour, Pascal. Le Brésil est sorti de la pauvreté extrême grâce aussi à ces milliers de footballeurs expatriés partout dans le monde qui nourrissent leur famille avec leurs revenus. Pourquoi ne pas exploiter cette piste pour soulager le peuple en professionnalisant tout le sport? C'est un auditeur, bien sûr, qui nous a envoyé ce message. On reçoit notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Oui, Papa Sibiti.
Bonjour, le travail que vous avancez. Vous savez, aujourd'hui, c'est le football. Chaque famille, parce que Adebayo a joué, il est devenu milliardaire. Chaque maison veut avoir. Non, ce n'est pas ça. Il faut étudier d'abord. Les anciens ont joué. Vous savez, vous n'étiez pas encore nés. Les Koussek, les Diapalo, Bassabi, les tantôt, mais comme leur époque n'était pas rémunérée, mieux que les Adebayo aujourd'hui, je vous dis, nous étions à ce côté. Aujourd'hui, même si vous n'aimez pas quelqu'un, il faut accepter ce qu'il fait. Le football chancelle. Le président Rock est là. Même si les gens parlent de Yassoubé, mais c'est lui, il est Yassoubé. Est-ce qu'en matière de football, il n'est pas un repère? Il faut retourner vers lui. Hein. Il faut retourner vers lui. Monsieur Rock, le colonel Rock, moi, je ne le connais pas. Je l'ai deux fois vu. Il faut aller vers lui. Comment il a fait pour conduire le Togo à la Coupe mondiale? Ou bien, monsieur Pascal, je n'ai pas raison en tant que papa.
Oui, vous avez votre réseau, bien sûr, bon, Papa Sibiti.
Merci beaucoup. Merci. Les autres côtés, bien sûr, si on nous félicite, il faut accepter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Et Papa Sibiti, vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Je lis quelques messages. Bonjour, Pascal. Pour le sport, il faut mettre le sport ou le football togolais en jachère pour au moins 5 ans. C'est Bernard qui nous écrit depuis Ton Tonoukouti, c'est ça, bien sûr, le nom. Et autre message, bonjour Pascal, tout va bien, et même mieux, car le ministre parle de la minorité et non de la majorité. Salut, c'est bien sûr un auditeur qui nous a envoyé cela. Il n'a pas signé, bien sûr, c'est Innocent qui nous a envoyé le message. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Eric, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité. C'est vrai, il y a les uns les autres qui sont revenus sur la déclaration du ministre Robert Dussé, d'autres sur le football et aussi sur cet exploit fait par le Togo en matière de l'aéronautique.
L'actualité est riche.
Oui.
Oui, je pense que fondamentalement, pour ce qui concerne le football, vous ne pouvez pas mettre le football en jachère. Ça, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il faut commencer par préparer les jeunes, hein, commencer un travail avec les jeunes et les regarder évoluer jusqu'à ce qu'on... Ça veut dire qu'il faut organiser des compétitions de jeunes de temps à autre pour les mettre dans le bain. Mettre le pays, le football en jachère, ça veut dire que vous ne participez plus à aucune compétition internationale et vous êtes sanctionné parce que le Togo s'est déjà engagé. Et bon, en ce qui concerne la musique également, comme on le disait, il faut forcément une bonne organisation de tout un chacun. Le ministre Dussé dit le Togo va bien, le Togo va mieux. Et je disais, il est un commis de l'État et donc il est allé présenter ce qui se passe dans le pays. Il ne faut pas oublier, il y a également la ministre des Affaires sociales qui est également aux États-Unis, qui a fait une présentation, une très bonne présentation hier ou avant-hier, j'ai suivi. Et je crois qu'ils sont envoyés pour dire quelque chose sur le pays. Et donc, peut-être la conclusion en disant que le pays va bien, je disais tantôt qu'il ne faut pas prendre ça de façon micro. Parce que, oui, il y a des problèmes un peu partout. Même les pays développés, ils ont encore besoin d'aides, ils ont besoin de crédits, ils ont besoin qu'on les soutienne dans plusieurs domaines. Maintenant, quant à ce qui concerne la sûreté aéronautique, je pense que cet exploit du Togo doit forcément nous réveiller tous pour nous dire que quand vous travaillez, et c'est que vous aurez des résultats tôt ou tard.
Merci Eric. Oui, Esaïe.
Non, moi je parlerai du football, comme l'a titré le confrère, un des doyens de la corporation MEP, que au secours, effectivement, le football togolais a besoin du secours. Et comme je l'avais dit dans mon développement, il faut que tous les acteurs s'acceptent, les anciens présidents, les anciens dirigeants, tous ceux qui s'étaient impliqués il y a quelques années dans le football. Il faudrait que ces acteurs se retrouvent une fois encore, enterrer la hache de guerre, comme on a l'habitude de le dire, et ensemble chercher à aller devant. Donc, salutations fraternelles au doyen MEP, et également salutations au doyen Francis, et beaucoup de courage à lui depuis
D'accord.
sa position.
Justement, merci beaucoup à vous, cher confrère Eric Parcou de Johnson. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci à vous, Esaïe Edo, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Thomas Etek aussi d'Ateli qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.